Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. À date, nous sommes le 15 janvier 2021. L'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa diversité et toute sa richesse. Ce soir, avec pour la rédaction chinoise, Nina Luang. Et puis Tana Tran de la rédaction vietnamienne.
Ciao Philippe.
Et enfin Matei Vichniak de la rédaction roumaine.
Bună seara.
Bonsoir à vous tous. Commençons par nous intéresser bien sûr à ce qui se passe aux États-Unis après le chaos à Washington et à moins d'une semaine de l'investiture du démocrate Joe Biden à la Maison Blanche. La ville est transformée en un camp retranché. 20 000 membres de la garde nationale sont mobilisés car on redoute de nouvelles violences à venir, le 20 janvier donc. C'est vrai pour Washington comme pour d'autres villes. Selon un rapport interne du FBI dévoilé par ABC News, en effet un groupe armé a prévu de prendre d'assaut les bureaux du gouvernement dans tous les 50 États que comptent les États-Unis, cela pour protester contre l'élection et la prestation de serment de Joe Biden. Nina Luang, comment la situation à Washington, cette situation-là, est perçue en Chine ?
Ce qui s'est passé le 6 janvier à Washington ouvre la voie à un relativisme qui fait que tout est comparable entre la démocratie et d'autres systèmes, comme dénonçait notre ministre française de la Défense, Florence Parly, et par exemple entre le maintien de l'ordre à Washington et la répression policière chinoise. Et ce relativisme, surtout en Chine. Les médias officiels chinois n'hésitent pas à comparer la violence au Capitole aux manifestations des Hongkongais pro-démocratie en 2019, parfois devenue violente et pour cela critiquée par la France comme par les États-Unis. Tout devient comparable. Le secrétaire d'État américain Pompeo a critiqué parmi d'autres l'anarchie des émeutiers à Washington. Ce tweet est ensuite vite relayé par le chef représentant de China Daily en Union européenne. Il a commenté par ce tweet, vous, donc Pompeo, vous condamnez finalement les émeutiers qui ont pris d'assaut le bâtiment du Conseil législatif de Hong Kong et qui ont vandalisé tout ce qui s'y trouvait. Laissant entendre un éventuel deux poids deux mesures des États-Unis qui ont pourtant appelé maintes fois à une désescalade de toutes les parties, policiers et manifestants hongkongais.
Alors tout ça n'est pas un cas isolé, Nina Luang, il faut le dire.
Apparemment, la violence à Washington a suscité une interprétation tordue, générale et virulente en Chine de la démocratie occidentale. Vous trouverez facilement des analyses, des reportages, des journalistes chinois comme des commentaires des internautes disant la démocratie américaine s'est fourrée dans le pétrin ou par exemple ceux qui se faisaient pour un phare de la démocratie se font prendre par des défauts fondamentaux de ce mythe.
Oui, parce que au-delà de cette attaque du Capitole et ce problème de savoir s'il s'agissait de reconnaître ou non le résultat d'une élection présidentielle, c'est aussi et surtout finalement une guerre des valeurs.
Tout à fait, entre la Chine et l'Occident. Bien sûr, les États-Unis nous ont réservé après la confirmation de la victoire de Joe Biden des surprises parfois très difficiles à comprendre, même d'un point de vue européen. Mais derrière des trolls et des moqueries que nous, les Européens, faisons aussi parfois précipitamment, se cache une guerre dangereuse contre les valeurs politiques et fondamentales que l'Union et les États-Unis partagent et que la Chine, parmi d'autres, essaye de renverser pour pouvoir instaurer ensuite les leurs. Voici ce que Mme Liselotte Odgar, une chercheuse de chez le Hudson Institute, m'a expliqué dans une interview.
L'Europe va essayer de se positionner comme une puissance de milieu, vous savez, qui doesn't choose sides between the US and China.
Que vous a expliqué Liselotte Odgar
dans cette interview sur un éventuel nouveau triangle entre l'Union européenne, la Chine et les États-Unis sous Biden. Liselotte m'a expliqué que certes, des désaccords entre l'Europe et les États-Unis risquent de continuer sur certains aspects. Les critiques de l'équipe de Biden sur l'accord commercial récemment conclu entre l'Union et la Chine font un bon exemple. Mais au fond, les Européens et les Américains partagent les mêmes valeurs. Ils sont tous pour l'ordre libéral international, ils sont tous contre ce que la Chine fait aux Ouïghours, aux Tibétains, dans la mer de Chine méridionale, sur les frontières sino-indiennes, etc. Donc pour l'Europe et les États-Unis, l'importance est de s'unir autour des points en commun et de l'objectif en commun face à la Chine, car si les deux parties continuent à se disputer sur tout, ils ne seront pas capables de faire face à la Chine.
Voilà donc pour la réaction en Chine. Chine. Pour ce qui est maintenant du Vietnam, Tran Ha, ces images de violence au Capitole ont suscité beaucoup de réactions parmi les auditeurs de RFI en langue vietnamienne.
Oui, il y a une véritable fascination. On constate que nos articles ou éditions, nos magazines consacrés à ce sujet attirent le plus grand nombre de vues et le plus de clics, et tout comme les commentaires. Alors, les commentaires sont souvent passionnés, parfois incrédules. Parmi les passionnés, par exemple, il y en a qui trouvent, je cite, que c'est normal que le Capitole soit attaqué parce que c'est une réponse logique face aux fraudes électorales.
C'est Damien qui dit ça. Hein,
oui.
C'est pas un supporteur de Trump.
Non, ce sont les commentaires sur les sites que l'on voit. Les incrédules, quant à eux, ont du mal à accepter que l'une des plus grandes et des plus vieilles démocraties du monde soit attaquée de la sorte et que l'incitation à cette insurrection vient même du chef de l'État. Enfin, d'autres commentaires encore se désolent que ces images de violence qui, selon eux, ternissent le leadership américain, alors que Washington condamne les assauts contre le mouvement démocratique hongkongais les violations des droits de l'homme au Xinjiang, etc. Comme Nina vient d'en parler. Et par la suite de ces événements du 6 janvier, on voit aussi que les images du Capitole se transforment presque en caserne avec les militaires qui dorment à ras le sol avec leurs armes à portée de main. Enfin, à quelques jours de l'investiture du prochain président des États-Unis, Washington est complètement barricadé.
Tana Tran, justement, dans cette multitude de commentaires des internautes, les médias ne sont pas épargnés, y compris votre rédaction, la rédaction vietnamienne. Hein.
Effectivement, certains ne se sont pas privés de nous critiquer, de relayer des fake news. Mais d'une manière générale, pas seulement les violences au Capitole, mais la vie politique américaine en ce moment, avec l'isolation de Trump, ses querelles internes avec ses plus proches collaborateurs, etc., sont les sujets les plus attrayant, si j'ose dire. Et concernant le second processus de destitution de Donald Trump, je vous propose d'écouter ce que nous explique notre invité, journaliste à Washington, D.C.
Theo cái bản dự thảo quyết nghị của Đảng Dân Chủ đó, thì họ đưa ra một cái điều ngắn thôi, nhưng mà nó bao gồm
la raison pour laquelle Donald Trump fait l'objet d'une deuxième, vous l'avez dit, processus de destitution, deuxième, ce qui est exceptionnel dans l'histoire politique américaine.
Tout à fait. Les accusations sont simples pour les démocrates. Les incitations successives à l'insurrection évoquent la trahison. Et c'est une trahison par rapport à la fonction du président que Donald Trump a juré de protéger les États-Unis, de protéger la Constitution américaine.
Encore une chose, contrairement à d'autres communautés asiatiques qui vivent aux États-Unis, les Vietnamiens sont assez favorables à Donald Trump. Comment est-ce qu'ils ont réagi donc aux événements du 6 janvier dernier?
Alors, la condamnation des violences est d'une manière générale constatée, y compris dans le camp des pro-Trump. Cependant, par exemple, l'un des journaux les plus lus par la communauté vietnamienne, le journal Nguyen Viet, dans son édition du 13 janvier, révèle que la police de la ville de Houston, au Texas, est en train d'enquêter sur l'un de ses membres, qui est vietnamien, soupçonné de participer aux violences au sein même du Capitole. La suspension du compte de Donald Trump sur les réseaux sociaux font également beaucoup de débats. Et puis, un journal local en Géorgie, cette fois-ci, le Deka Turkish, ce week-end a révélé que l'une des congresswomen de cet État, Madame Bing Nguyen, a été menacée par les camps durs des pro-Trump.
Mathé Bichniak de la rédaction roumaine, tout à l'heure avec Nina Luang, on parlait d'une guerre de valeurs. Il y a aussi ces symboles. Hein. Parlons de ces symboles arborés par les contestataires devant le Capitole, aussi à l'intérieur, bien évidemment. On les a vus sur les écrans. Certains symboles sont assez obscurs, assez abscons. Vous y êtes revenu plusieurs fois dans vos différentes éditions.
Oui, parce que c'est intéressant. Par exemple, ce tatouage sur la poitrine de l'individu qui est devenu en quelque sorte le symbole de l'envahissement du Capitole, on se rappelle tous, il portait un bonnet en peau de bête et arborait aussi des cornes. Son tatouage, trois angles imbriqués, s'appelle Valknut. C'est un symbole majeur du wotanisme. Wotan, c'est, on le sait, une divinité du panthéon germanique. Et le wotanisme, c'est un mélange de discours religieux, identitaire, raciste, antisémite et néo-nazi. Il y a eu aussi le drapeau confédéré, bien sûr, amplement agité à l'intérieur du Capitole. On a vu des images, des photos. C'est un symbole de l'esclavage et du racisme à 100%.
Et puis il y a le Gadsden Flag.
Symbole inventé par un colonel en 1775 pendant la guerre d'indépendance contre les Britanniques. Il représente un serpent à sonnette et a comme devise la phrase « Ne me marche pas dessus ». C'est un symbole adopté par tout un éventail de mouvements pro-armes, libéraux, libertaires. Il paraît que le serpent à sonnette n'attaque jamais, sauf s'il est sérieusement provoqué, d'où et, son effigie.
Et puis il y a encore ce drapeau appelé Blue Lives Matter, à ne pas confondre avec Black Lives Matter.
Exactement, parce que c'est le symbole d'un mouvement de contestation né en 2014, après le meurtre de deux policiers. On peut dire que les manifestants qui ont pénétré dans le cœur même de la démocratie américaine n'avaient pas un symbole unique, car eux-mêmes représentent une nébuleuse idéologique.
Et parmi ces symboles, il y a également un drapeau roumain. Comment expliquer cela ?
Bon, c'est difficile à croire, mais il avait des drapeaux roumains là-bas. C'est assez simple. Il a une communauté roumaine d'environ 1 million de personnes aux États-Unis. Bon, que c'est des Roumains, que c'est des Américains qui ont des racines roumaines, de toute façon. Déjà en 1913, on a des statistiques, il avait 120 000 Roumains émigrés en Amérique. Beaucoup des Roumains américains ont peur d'une certaine gauche américaine qui, de leur point de vue, serait imprégnée par l'idéologie communiste. Sans doute, il y a beaucoup de fake news qui contribuent à cette perception, mais aussi la progression dans les universités américaines, dans certaines universités américaines, de ce qu'on appelle la pensée politiquement correcte, qui est perçue comme une idéologie. Et voilà comment on fait une sorte de raccourci. Joe Biden, c'est le Parti démocrate. Le Parti démocrate, c'est la pensée politiquement correcte.
Conclusion.
Alors, le communisme s'installe en Amérique. J'ai été personnellement assez étonné quand j'ai vu des drapeaux roumains agités devant le Capitole. Et en plus, c'était des drapeaux qui avaient un trou au milieu. Et ce type de drapeau est le symbole de la révolution roumaine de 1989, quand la Roumanie s'est débarrassée du communisme et de Nicolae Ceausescu. À mon avis, les contestataires roumains ou d'origine roumaine qui arboraient ces drapeaux se trompaient des symboles, des combats, d'adversaires et d'époque.
Et puis il y a cet individu qui a pénétré dans le Capitole avec un drapeau confédéré. Il a été inculpé, comme d'ailleurs d'autres manifestants qui avaient pris d'assaut le bâtiment. Il y a beaucoup d'inquiétudes aux États-Unis concernant les signes de racisme dans les rangs de l'armée également, Mathieu Wichniak.
Oui, et on nous annonce une enquête avant la fin du mois concernant la montée de l'extrémisme au sein de forces armées américaines. D'après les médias américains, des anciens militaires auraient participé aux violences du 6 janvier. Il faut dire que l'armée américaine compte 2 millions de soldats. L'année passée, en septembre, la revue Military Times avait signalé des signes du racisme et du suprémacisme blanc dans les rangs d'un tiers du militaire. Voici donc une autre urgence pour la nouvelle administration et pour Joe Biden. Le Pentagone interdit en principe aux militaires de défendre activement des idéologies ou causes suprémacistes, extrémistes ou liées à des gangs criminels, mais il paraît que depuis 5 ou 6 ans, certains groupes tentent de recruter des soldats ou essayent de placer leurs membres au sein de l'armée pour qu'ils puissent acquérir des compétences et de l'expérience militaire.
Et pour être tout à fait complet, sachez qu'il y a de cela quelques instants, la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a annoncé avoir demandé à un général à la retraite de mener un audit sur la sécurité du Capitole et donc sur ces événements qui ont eu lieu le 6 janvier dernier. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Depuis 15 jours maintenant, les Chinois qui veulent divorcer ne peuvent plus le faire librement comme avant, car le droit de rétractation entre en vigueur. Selon le nouveau code civil, si la femme ou le mari, la Chine ne reconnaît pas le mariage pour tous, ne souhaite pas divorcer dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'autorité reçoit la demande, eh bien cette demande de divorce peut être retirée. 30 jours après cette période de rétractation, le couple doit alors aller ensemble au bureau, dans un bureau pour prendre le certificat du divorce. Un changement qui a poussé beaucoup de Chinois à se précipiter au bureau d'enregistrement du mariage pour divorcer, avant donc que ce nouveau code civil n'entre en vigueur, craignant la quasi-impossibilité de divorcer passé cette date, si le conjoint refuse de le faire. Nina Nguyen, de la rédaction chinoise de RFI, dans quel contexte est créé ce nouveau droit de rétractation?
Ce droit de la rétractation du divorce pour les Chinois est instauré en pleine inquiétude de l'État sur deux tendances alarmantes. D'abord, le nombre de mariages chute pendant que de plus en plus de Chinois, surtout les jeunes, choisissent de ne pas se marier ou vouloir divorcer sur un coup de tête. Ensuite, les courbes de la démographie chinoise ne sont pas du tout rassurantes. Après l'année 1962, la Chine est entrée dans un pic de naissance et cela a duré pendant plus de 10 ans. Cette génération devra partir en retraite au plus tard d'ici 2 ans. Surtout dans l'année 63, le nombre de naissances a atteint presque 30 millions. Les deux années suivantes ont également atteint moyennant 27 millions de personnes nées chaque année. Donc ces 3 ans constituent une vague de naissance pour la Chine et vont déclencher sûrement une vague de retraite menaçante pour le système actuel. Et d'autre part, il y a moins de naissances après les années 90. Surtout en 88, elle seule, le nombre de naissances est tombé sous la barre des 20 millions. Entre l'année 90 et 2000, la Chine n'a pas vu de retour d'une augmentation importante des nouveau-nés. Et pendant ces 10 ans, l'ensemble du nombre de naissances était à peu près 20 800 millions, soit 12 000 millions de moins que les 10 ans passés.
Alors rappelons que la Chine a mis fin à la politique de l'enfant unique voilà 5 ans, c'était en 2016. Où en est-on aujourd'hui ?
La fin de la politique de l'enfant unique ne renverse malheureusement pas les courbes. Le nombre de naissances continue à diminuer et les données montrent que 142 millions de personnes de moins sont nées entre l'année 90 et 2010 par rapport à la génération née entre 60 et 80. Ce qui est pire aujourd'hui, c'est que les couples nés pendant la politique de l'enfant unique doivent financièrement soutenir 4 personnes âgées, c'est-à-dire 2 parents de la femme et 2 du mari, en plus de leur enfant. La vie coûte cher, la majorité des entreprises chinoises prônent des heures supplémentaires importantes, pourtant parfois non rémunérées. Tous les éléments sont réunis là pour que les jeunes Chinois d'aujourd'hui n'ont plus envie du tout de se marier, et moins pour faire des enfants. Il faut aussi souligner qu'en Chine actuelle, un enfant né des parents non mariés ne peut pas être enregistré sur le registre local. Donc pour revenir à l'instauration de ce droit de la rétractation du divorce, même si l'État chinois assure que cette politique ne s'applique pas au cas pour les causes de la violence domestique, beaucoup craignent que cela n'aide pas à avoir plus de nouveau-nés dans un système plus compliqué qu'il n'y paraît.
Voilà pour cette réforme du code civil chinois. C'était Nina Nguyen de la rédaction chinoise de RFI. Bien sûr, le coronavirus fait encore et toujours la une de l'actualité, où que ce soit dans le monde. Faisons donc un focus, sur vos différentes zones d'écoute. Le Vietnam, tout d'abord, selon le bilan officiel, eh bien, le pays fait partie des rares pays dans le monde à avoir bien maîtrisé la pandémie. Seulement 35 décès, seulement 1500 cas positifs pour une population de 94 millions, ce qui est beaucoup plus que la France, quasiment un tiers de plus. Tran, première question, comment expliquer pareil succès?
Oui, c'est une bonne surprise et les chiffres que vous venez de citer le montrent bien. D'autant plus que le Vietnam a nettement moins de moyens que ses voisins asiatiques tels que le Taïwan ou Singapour. Sur nos antennes le lundi 11 janvier dernier, le docteur Chung Hu Hang, donc chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital pédiatrique à Saigon, explique que la clé du succès est due à une politique d'isolement stricte de tous ceux qui arrivent de l'extérieur pour limiter au maximum la propagation du virus au sein de la communauté. Je vous propose de l'écouter.
Que vous a-t-il dit précisément, Tran?
Notre politique, c'est que tous ceux qui arrivent de l'extérieur sont donc susceptibles d'être porteurs de virus. Donc, ils sont forcément isolés pendant 14 jours dans un centre dédié, suivi de 14 jours d'autoconfinement. Alors, donc, ça fait 28 jours. Hein. Cette mesure a été donc appliquée au début uniquement aux ressortissants chinois, ensuite ouvert aux Japonais, aux Coréens du Sud, puis aux voyageurs de d'autres nationalités. Tous ceux qui sont testés positifs sont donc isolés, soignés dans un centre spécial. Toutes les provinces ont des centres de mise en quarantaine, mais pour ne pas être submergés, ces centres accueillent des voyageurs en fonction de leur capacité. Au début, tout est pris en charge par l'État, puis on a organisé une mise en quarantaine payante pour ceux qui veulent du confort pendant la période de l'isolement. Je précise qu'à l'heure actuelle, toute personne arrivée sur le territoire vietnamien est encore placée en quatorzaine pour éviter tout contact avec les locaux. Et le gouvernement n'a pas hésité à mobiliser l'armée pour assurer cette phase de contrôle.
Est-ce qu'il y a un système d'amende comme en France avec les 135 euros, à votre connaissance?
Oui.
Autre chose qui explique cette bonne gestion de la crise sanitaire au Vietnam, c'est que dans les premiers jours où est apparue l'épidémie en Chine, le Vietnam a carrément fermé ses frontières avec son voisin du Nord.
Oui. La décision a été très rapide. C'était à la fois une décision courageuse et difficile au regard des 1300 kilomètres de frontières terrestres communes, au regard de l'importance des échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine. À titre d'exemple, pour la seule province de Lạng Sơn qui a 12 checkpoints avec la Chine et le commerce transfrontalier dans les deux sens dans cette province représente 53% du PIB.
C'est-à-dire
vous imaginez? Donc, les échanges terrestres en volume représentent d'ordre de grandeur de quelques milliards par mois. Et enfin, d'autres difficultés, par exemple, comme le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises, ce qui veut dire que le gouvernement du Vietnam a dû surmonter tous ces obstacles à la fois dans un laps de temps très court.
Ouais, un isolement et des mesures drastiques et respectées scrupuleusement avec la force armée s'il en était besoin. C'est peut-être visiblement ça qui a fait la différence avec d'autres pays dans le monde. Tran La Tran de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale. Voyons maintenant ce qui se passe en Roumanie à cause de cette pandémie de Covid-19. Matei Vișneac, le président roumain, parie sur l'exemplarité concernant le vaccin.
Oui, le président roumain Klaus Iohannis s'est fait vacciner à Bucarest devant les caméras et juste après, il a fait une déclaration au public. Écoutons-le.
Este o procedură simplă, nu doare și vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand.
Alors, qu'a déclaré Roman Klaus, le roumain, pardon, Klaus Iohannis,
des choses qui sont importantes pour tout le monde, il dit comme ça: c'est une procédure simple, elle ne fait pas du mal et je veux souligner que le vaccin est sûr, il est efficace et je le recommande à tout le monde. La vaccination et le respect des mesures de restriction vont nous aider à sortir de la pandémie. Fin de citation. Voici donc la déclaration du président roumain, faite au moment où en Roumanie commence au niveau national la deuxième campagne de vaccination pour les personnes qui ont plus de 65 ans et présentent une situation de risque, des maladies, enfin. La première étape de vaccination a commencé en Roumanie le 27 décembre dernier. Et on a vacciné presque 169 000 personnes. On espère vacciner dans les trois mois à venir presque 2 millions de personnes en Roumanie sur une population de 20 millions. En ce moment, le bilan de la pandémie est bon, assez grave à mon avis. 17 000 morts et plus de 688 000 contaminés.
Oui, donc on fait un parallèle. 17 000 morts pour 20 millions d'habitants. 35 morts pour 94 millions de Vietnamiens. Un autre sujet à présent, Matei Vișneac. Aujourd'hui est une date importante pour les Roumains car c'est la journée de la culture nationale, comme chaque année depuis maintenant 10 ans, enfin 11 ans, depuis 2010. Cette journée a de multiples significations. Matei, commençons par la date. Pourquoi un 15 janvier?
Bon, tous les Romains, ils savent ça, parce que...
Ah ben, pas nous, alors expliquez-nous.
À l'école, ils vont apprendre qui est notre poète national, Mihai Eminescu. C'est le poète qui est né le 15 janvier en 1850, voilà. On le considère le plus important poète roumain du 19e siècle. C'est avec lui que la langue roumaine littéraire arrive à une sorte de maturité, de splendeur musicale. Il faut dire que la Roumanie est entrée un peu plus tard dans le concert des nations, dans le concert culturel des nations en Europe. Une suggestion pour ceux qui se baladent à Paris. Il a un statut de notre poète national Mihai Eminescu dans un square situé vis-à-vis du Collège de France, donc voilà, très central, au bout de la rue Jean du Beauvais, à deux pas de la Sorbonne. Là, il y a aussi une église, une ancienne église française que les Roumains ont repris, et c'est maintenant l'église des Roumains orthodoxes de Paris. La journée de la culture roumaine est aussi une manière de réunir dans une célébration de la mémoire, éventuellement de la mémoire identitaire, les Roumains de partout, les Roumains de Roumanie et les 4 millions de Roumains, ou même plus, de la diaspora.
Dont de nombreux en France. Hein. Il y a par exemple 4000 médecins qui travaillent en ce moment en France. Mathéi, vous nous recommandez d'ailleurs un livre qui s'intitule « Ces Roumains qui font la France ».
Oui, c'est un livre qui est sorti en octobre l'année passée et qui est signé par Bruno Tessier. Le livre est publié par les éditions Bibliomonde. Le titre complet, c'est « Ces Roumains qui ont fait la France. Deux siècles d'immigration en provenance de Roumanie et de Moldavie ». Mais le titre, d'une certaine manière, il paraphrase un autre dictionnaire qui s'appelle « Ces étrangers qui ont fait la France ». Ça, c'est un dictionnaire absolument remarquable où il y a 4000 noms répertoriés des étrangers qui sont arrivés en France après la Révolution française et qui, d'une manière ou d'une autre, soit qu'ils sont devenus français, soit qu'ils ont fait des choses importantes pour la France, ils se sont fait remarquer de toute façon. Revenons à ces Roumains qui ont fait la France. C'est vraiment un livre intéressant car l'auteur évoque des figures très connues. Bon, là on connaît bien Ionesco, oui. Eugène Ionesco, le père du théâtre de l'absurde, Cioran, Émile Cioran, le philosophe, Brancusi, Constantin Brancusi, on peut aller visiter son atelier devant Beaubourg, non? Elvire Popesco, une grande comédienne qui a quand même fasciné le public français avec son accent.
Et il y a d'autres noms plus contemporains, cela.
Et il y a d'autres noms, oui, plus contemporains. Peut-être pas connus, très connus, mais on ne savait pas qu'ils avaient des racines en Roumanie et en Moldavie. Par exemple, Henri Negrescu, le fondateur du Palais Niçois. On connaît tous le Palais Negrescu, mais bon, il avait des racines roumaines.
Un grand hôtel sur la promenade des Anglais.
Absolument.
Face à la mer.
Et puis, Michel Drucker. Alors, Michel Drucker, oui, il a quelques racines en Roumanie. Elisabeth Rudinescu, voilà. Jean-François Copé. Robert Badinter.
Politique, Robert Badinter également.
La chanteuse Barbara. Oui, tout à fait. Si on creuse bien, bien, il y a des racines qui arrivent là-bas, bien sûr. Serge Klarsfeld. Serge Moscovici. Bon, j'arrête, mais quand même, c'est très intéressant. Autant des destins et des trajectoires individuelles qui ont un rapport de mémoire avec la Roumanie.
Et puis, il y en a un autre Roumain qui a fait la France. C'est Édouard de Max, comme son nom ne l'indique pas. C'est un acteur de la Belle Époque. Et vous nous en parlez parce qu'un livre vient de sortir. Hein.
C'est un livre absolument remarquable, avec des images. Un livre conçu par Claudette Joannis, avec une préface de Georges Banu. Et c'est un personnage de l'époque, de la Belle Époque. Il a joué avec Sarah Bernard. Il est né en Roumanie en 1869. Il arrive en France en 1889. Il fait le Conservatoire national et après, grand succès. Avec son accent, il devient un grand comédien. Il entre à la Comédie française, il joue beaucoup avec Sarah Bernard, avec André Antoine. Après, il devient à Paris une sorte de dandy, comme Oscar Wilde.
Autre chose, puisqu'on parle de culture roumaine, Mathieu Vichniac, vous connaissez très bien Paris, vous aimez la capitale française, vous nous suggérez une balade, alors avant 18h, hein, bien évidemment, avant le couvre-feu.
Même deux. On peut aller au cimetière Montparnasse pour visiter 5 tombes. Eugène Ionesco, l'un des pères du théâtre de l'absurde, et puis le philosophe Émile Cioran, et le poète Tristan Tzara, qui est aussi l'un des fondateurs du mouvement Dada, et le sculpteur Constantin Brancusi. Voilà.
Et tous sont enterrés dans ce cimetière parisien.
Et en plus, en prime, Édouard de Max, dont on vient de parler de ce personnage. Donc voilà, pour une petite balade, mais c'est encore plus intéressant si on fait une balade, un tour des librairies, parce que les librairies sont ouvertes, alors on trouve énormément de livres traduits du roumain. Par exemple, ça vient de sortir, un livre de Mircea Cărtărescu, auteur nobilisable, il est né en 1956, c'est ma génération, il écrit en roumain, il est traduit en français. Le livre s'appelle « Melancolia », ça vient de sortir aux éditions Noir et Blanc, et justement, Le Figaro, il y a quelques jours, a publié une chronique formidable de ce livre.
Voilà pour ces conseils culturels dans Accent du Monde, sur Radio France Internationale et nulle part ailleurs.